journal, Pierre Véry. Bonjour Pierre.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Emmanuel Macron honore le général de Gaulle 80 ans après sa première grande bataille. Cérémonie dans un village de l'Aisne ce matin pour célébrer, je cite, « l'esprit français de résistance et de résolution ». Des mots qui ont une résonance particulière face à l'épreuve de l'épidémie de Covid-19 qui s'annonce longue. Explication avec Laurence Perron. Olivier Véran, le ministre de la Santé, promet de meilleurs salaires à l'hôpital et un assouplissement des 35 heures. Interview dans le JDD. Détails et réactions avec Hélène Chevalier. Dans le JDD aussi, une tribune de 9 médecins de Seine-Saint-Denis qui réclament l'équité sanitaire pour leur département. Nous serons en ligne avec un des signataires, le professeur Emmanuel Martineau. Le premier week-end de déconfinement, reportage avec des randonneurs en Auvergne, mais vigilance des autorités sanitaires face à 25 foyers de contamination, notamment dans un abattoir du Loiret. Nous irons sur place. Conséquence du confinement, 5 millions de salariés ont pratiqué le télétravail. Comment encadrer le travail à domicile? Les syndicats ne veulent pas d'une zone de non-droit à l'étranger. En Israël, après 500 jours de crise et 3 élections, le gouvernement d'union de Benjamin Netanyahou et Benny Gantz prête serment cet après-midi. Sa première urgence, gérer les conséquences économiques du coronavirus.
France Inter.
Honorer l'esprit de résistance, et c'est ce qu'a fait ce matin Emmanuel Macron en commémorant dans l'Aisne, dans un village d'Izy-le-Gros, une bataille, la bataille de Montcornet et ses 60 000 morts, où s'illustra en 1940, en pleine débâcle, un colonel encore inconnu, Charles de Gaulle. C'est la première étape d'une série de célébrations cette année en hommage à l'homme du 18 juin, mort il y a 50 ans, le 9 novembre 1970. Dans son discours, Emmanuel Macron a rendu hommage à l'histoire de l'esprit français.
L'esprit français, empreint de résistance et de résolution, qui souffla ici en mai 1940. L'esprit français, oui, farouchement libre et fier, déterminé et inébranlable, qui jamais ne meurt, même quand le pays est vaincu. L'esprit français, qui toujours permet au peuple de France de se redresser et de reprendre la grande marche de son destin. L'esprit français, qui jamais ne se résout à la défaite, qui choisit la conquête et embrasse l'audace. De Gaulle nous dit que la France est forte quand elle se tient unie, qu'elle cherche la voie de la cohésion au nom d'une certaine idée de la France qui nous rassemble par-delà les discordes alors devenues accessoires et les désaccords souvent trop vétilleux. Colonel, général, chef de la France libre, président de la République, Charles de Gaulle incarne cette résolution, cette force d'agir, cet esprit français.
Voilà, Emmanuel Macron ce matin dans l'Aisne, prévu de longue date ce déplacement présidentiel dans ce département, est le premier depuis plus de 2 mois à ne pas être consacré officiellement à la lutte contre le coronavirus. Laurence Perron, bonjour.
Bonjour.
Laurence, sans le dire, tout en restant dans l'histoire liée à De Gaulle, le chef de l'État nous renvoie quand même à l'épreuve sanitaire que nous vivons en parlant du refus de la défaite et de l'esprit de résistance.
Alors très clairement, hein, dans ce discours au lyrisme délicatement suranné, le fœtu, l'étincelle de volonté face au brasier hitlérien, les désaccords vétilleux, très clairement dans cette contre-attaque de la bataille de France qui s'était soldée par des dizaines de milliers de morts en raison de l'impréparation de l'armée française, eh bien très clairement Emmanuel Macron se glisse dans l'armure du chef qui s'apprête à relever son pays des faits, panser les plaies des braves d'aujourd'hui en appelant à la résistance. La résistance contre un ennemi invisible, il n'a pas repris le terme, mais lorsqu'on l'entend dire que cette bataille n'était ni une défaite prévisible, ni une déroute inéluctable, il a bien sûr en tête la bataille présente contre le coronavirus. Mais il est dans l'après, dans la résistance, le destin du pays au sortir de ce qu'il a lui-même appelé cette guerre. Et là, ce qui est intéressant, on l'entendait dans le son que vous avez passé, c'est la convocation à 6 reprises au moins de l'esprit français. Et elle nous ramène à sa conférence de presse du 25 avril 2019 au sortir de la crise des Gilets jaunes. Là, il invoquait déjà l'esprit français pour réconcilier le pays meurtri par les divisions. Alors en se plaçant désormais sous le patronage du général de Gaulle, il entend signifier aux Français, mais surtout aux responsables politiques, que l'heure est à l'union des forces et non pas aux petites vétilles politiciennes.
Laurence Perron. Presque une semaine après la levée du confinement, on a enregistré chez nous moins de 100 décès, 96 en 24 heures, pour un bilan qui atteint désormais 27 625 morts depuis le 1er mars. Le nombre de patients en soins intensifs baisse toujours, avec 2132 cas graves en réanimation contre plus de 7000 début avril. Évidemment, les hôpitaux restent en alerte face au risque d'une deuxième vague. Un personnel médical qui semble recevoir toute l'attention de l'exécutif en ce moment. Vendredi, Emmanuel Macron promettait de mettre fin à la paupérisation de l'hôpital. Et ce matin, dans le journal du dimanche, le ministre de la Santé, Olivier Véran, fait lui aussi des promesses, Hélène Chevalier. Il promet de meilleurs salaires au personnel hospitalier et un assouplissement des 35 heures à l'hôpital.
Olivier Véran souhaite lancer ce Ségur de la Santé le 25 mai prochain par une grande réunion avec les partenaires sociaux. Le ministre de la Santé dit vouloir aller vite, notamment concernant la rémunération des infirmières et infirmiers, souhaitant que leur salaire atteigne rapidement celui de la moyenne européenne. Car la France en est loin, rappelle Thierry Amourou, le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers.
La différence de salaire entre une infirmière française et une infirmière européenne est de 300 euros par mois en moyenne, selon une étude de l'OCDE qui montre que la France est 26e sur 29 pays de l'OCDE.
Olivier Véran souhaite également assouplir le temps de travail afin de permettre, par exemple, à ceux qui souhaitent de travailler plus. Encore faudrait-il que les heures supplémentaires soient payées, constate Evelyne Rescanière, secrétaire générale de la CFDT Santé Sociaux.
Une heure supplémentaire que vous faites est stockée sans majoration, c'est-à-dire pour une heure de plus que vous faites, vous aurez droit à une heure de repos, et encore quand vous pourrez la prendre, puisqu'on est en sous-effectif, donc effectivement l'hôpital ne permet pas d'augmenter ses rémunérations, et on n'est même pas justement rémunéré pour les heures que nous faisons.
Des annonces qui laissent sceptiques les syndicats, ce Ségur de la Santé n'est pour eux qu'un énième plan de communication.
Hélène Chevalier. Nous réclamons l'équité sanitaire pour la Seine-Saint-Denis. C'est le titre d'une tribune parue dans le journal du dimanche ce matin, signée par 9 médecins de Seine-Saint-Denis. Un des signataires est en ligne avec nous, le professeur Emmanuel Martineau, qui est chef du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Bonjour professeur.
Bonjour monsieur.
Avant de parler de la situation dans votre département et de cette tribune, votre réaction au propos d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui promet que le gouvernement va augmenter les rémunérations à l'hôpital et créer un cadre plus souple pour le temps de travail?
Écoutez, ce Ségur de la Santé est une avancée pour moi. Moi j'ai été élu représentant de la communauté des médecins de mon groupe hospitalier en décembre, en pleine crise de l'hôpital. On a vécu ensuite des moments très difficiles avec cette crise sanitaire Covid-19. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on va retomber dans la même situation et que la grogne monte à nouveau à l'hôpital. Donc, il faut faire quelque chose.
Mais pour vous, ce serait quoi une hausse de salaire significative?
Alors, je pense que de toute façon, pour ce qui concerne la hausse de salaire, l'urgence, c'est vraiment de revaloriser justement les salaires des infirmières. C'est vraiment l'urgence.
Combien?
Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas mon rôle, mais au moins que ce salaire soit dans la moyenne des pays européens. Aujourd'hui, on est quasiment dans les derniers pays.
Professeur Martineau, alors je reviens sur cette tribune publiée dans le journal du dimanche. Nous réclamons l'équité sanitaire pour la Seine-Saint-Denis. Pourquoi ce département est aujourd'hui au bord de la rupture ?
Alors, juste en préambule, je souhaiterais quand même souligner, vous l'avez fait au début, hein, le caractère tout à fait collectif de cette démarche, avec finalement tous les représentants des médecins de chaque hôpital du 93 qui a signé cette tribune. C'est quasiment une première.
Qu'est-ce qui manque dans l'offre de soins dans votre département ?
C'est un acte fondateur. Il manque beaucoup de choses, cette crise l'a montré, puisqu'il y a une surmortalité de 118,4% dans notre département. On manque un peu de tout. Alors même s'il y a eu des grands plans d'investissement, hein, en particulier pour la PHP sur l'hôpital Avicenne, et il y a des plans qui sont prévus, tout est insuffisant. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un plan d'investissement massif. Il faut qu'on augmente l'attractivité justement pour attirer les médecins dans ce territoire, et parce que c'est un territoire qui est de contraste. On a les meilleures choses, mais on a aussi des éléments de très très difficiles au quotidien. Et aujourd'hui,
décrivez-moi ce quotidien difficile, par exemple.
Le quotidien, c'est qu'on manque un peu de tout. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, on manquait de lits de réanimation, on manque de médecins puisque finalement l'attractivité est quand même faible. Il faut qu'on trouve un moyen pour augmenter l'attractivité dans ce département. On manque d'infirmières, on fonctionne beaucoup avec de l'intérim. Tout ça sur un fond de crise de l'hôpital public qui chez nous est encore plus grand. Je pense que ce Grenelle, ce Ségur de la santé, c'est l'occasion de remettre tout à plat, T2A, la loi HPST, Ma Santé 2022 qui était
professeur
quand même...
Professeur Martineau, oui. Selon vous, les habitants de Seine-Saint-Denis sont moins bien soignés que dans d'autres départements?
Alors, c'est pas ce que je veux dire, mais grâce à cette fraternité, cette solidarité entre soignants, on fait des miracles. Je vous rappelle qu'il y a eu pas mal de premières médicales internationales dans notre département. Je le disais tout à l'heure, c'est une terre de contraste. Je vais vous citer un exemple, si j'ai le temps.
Allez-y.
Sans faire trop de polémique, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est face à tout ça, parce que la grogne monte, c'est très difficile. Il ne faut pas polémiquer, surtout, il faut rester très calme. Je vous cite un exemple. Le nombre de la population de Seine-Saint-Denis, c'est 1,6 million d'habitants. C'est une estimation, probablement, c'est autour de 2 millions. Paris Intramuros, c'est 2,1 millions. Aujourd'hui, vous prenez le nombre de professeurs en Seine-Saint-Denis, de professeurs de médecine, vous en avez 80, vous en avez 800 dans Paris. Alors, je demande pas qu'on retire des professeurs dans Paris, je demande simplement que là aussi, il y ait une équité, c'est-à-dire qu'on ait le droit à développer nos projets avec des politiques dynamiques, d'investissement, d'attractivité et finalement pour permettre à un plus grand nombre de patients de pouvoir être traités.
Merci.
Dans notre département. Il y a des forces exceptionnelles, il y a des médecins formidables, je les connais bien puisque j'y travaille depuis 20 ans. Et aujourd'hui, c'est l'occasion, le Ségur de la santé, de faire des réformes en profondeur, bien sûr sur les salaires, l'attractivité. J'ai peur...
Merci.
Que le Ségur de la santé oublie simplement les territoires. Oh. Et le président Macron l'a dit tout à l'heure, l'esprit français, c'est quelque chose. Et bien aujourd'hui, il doit souffler sur notre hôpital.
Merci,
public.
Merci, professeur Emmanuel Martineau. Merci beaucoup. On suivra de près ce Ségur de la santé, cette réunion avec les partenaires sociaux pour examiner le statut, la situation des personnels de santé. Professeur Emmanuel Martineau, chef du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Dans cette interview au JDD, Olivier Véran, le ministre de la Santé, estime qu'un bilan sanitaire du déconfinement pourra être tiré d'ici 15 jours. Il précise que 25 foyers des clusters de l'épidémie ont été recensés depuis lundi, notamment 34 cas de contamination au sein d'un abattoir de Fleury-les-Aubrais dans le département du Loiret, près d'Orléans. Anne Auger de France Bleu Orléans est en ligne avec nous. Bonjour Anne.
Bonjour Pierre-Evel, bonjour à tous.
Anne, le préfet du Loiret a tenu une conférence de presse ce matin. Il préconise un dépistage de l'ensemble des salariés et prestataires de l'abattoir.
Oui, Pierre, le préfet du Loiret, Pierre Poissel, et le directeur de l'Agence régionale de santé ont bien insisté sur le fait que c'est l'urgence absolue du moment, dépister maintenant tous les salariés de cet abattoir qui emploie 400 personnes et pas seulement les employés de l'atelier de découpe de la viande où ont été diagnostiqués les premiers cas en milieu de semaine, 3 cas positifs au départ, puis 12 rapidement et donc 34 à l'arrivée, sachant que les tests se sont poursuivis ce matin, qu'il y en aura encore demain et mardi. Il reste encore 300 personnes à dépister, puis il y a les cas contacts, les gens qu'ont fréquenté les malades avant d'être mis à l'isolement. C'est donc une opération de grande ampleur pour contenir la propagation, mais le préfet assure que le Loiret a largement la quantité de tests pour faire face. Il a aussi expliqué quand même que cette contamination, elle se passe dans une entreprise déjà sous surveillance des autorités sanitaires depuis novembre après la détection de listeria dans des produits transformés. L'usine est vétuste, il y a des problèmes. On verra si les mesures barrières étaient vraiment respectées, a dit le préfet. En tout cas, elle est fermée au moins une semaine.
Anne Auger de France Bleu Orléans. Le confinement ces 7 dernières semaines, ce confinement a bousculé l'organisation du travail. Le télétravail s'est imposé pour quelque 5 millions de salariés. Alors les syndicats réclament une négociation interprofessionnelle sur le sujet, ce que ne souhaite pas à ce stade le patronat. Le MEDEF vient tout de même d'accepter d'ouvrir la discussion. Une première réunion devrait avoir lieu d'ici la fin du mois et chacun arrivera avec ses propositions, Hélène Philly.
Le premier constat, c'est qu'il y a beaucoup plus de postes que l'on ne croit à pouvoir basculer en télétravail. Le confinement l'a prouvé, certes de façon précipitée, désorganisée, mais 9 salariés sur 10 se disent prêts à poursuivre, selon une consultation de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Il faut d'abord un encadrement clair, prévient la CGT. Le télétravail ne doit pas rester une zone de non-droit, à l'image de ce qui a pu parfois se passer ces dernières semaines. Le volontariat doit être la première règle, estime les syndicats CFDT, UNSA, CFTC, fournir les outils, respecter le droit à la déconnexion et alterner travail à la maison et au bureau. Le collectif reste important pour éviter l'isolement, complète Force ouvrière. Dans Le Parisien ce matin, le président du MEDEF reconnaît que le télétravail peut compter, particulièrement dans les métropoles où les salariés subissent les temps de transport et la pollution. Et le télétravail, ce n'est pas forcément le travail à la maison. Dans le même quotidien, Laurent Berger pour la CFDT imagine notamment des espaces de coworking en bout de ligne RER.
Hélène Philly, et bien sûr, c'est la suite de ce premier week-end de déconfinement sur de nombreuses plages, mais aussi en montagne. Pour réussir ce déconfinement sans faire repartir l'épidémie, la liberté accordée reste limitée. Les escapades ne sont autorisées que dans la limite de 100 km et dans le respect des gestes barrières. En Auvergne, il y a du monde pour retrouver la nature. Le beau temps est au rendez-vous. Léo Corcos a croisé des promeneurs au pied du col des Goules, près d'Orcines, dans le Puy-de-Dôme.
Oui, il y avait beaucoup de voitures sur le parking des Goules à l'entrée des chemins de randonnée. Après 2 mois de confinement, les Auvergnats ont eu besoin de reprendre contact avec la nature. Certains avaient des fourmis dans les jambes, comme René. Il est en maison particulière à Roya.
On se déplaçait uniquement pour les courses ou avec les restrictions et tout, on était obligés. Hein. C'était limité, donc on est resté coincé un petit peu à la maison. Quoi. Je pense qu'ils veulent faire le tour du Puy-de-Dôme. C'est histoire de se remettre en jambes un peu.
Johan, lui, profite de cette sortie pour se maintenir en forme.
Le programme, c'est 14 km en course pour se remettre en jambes un peu. Pour l'instant, c'est pour le plaisir, après, pas d'objectif particulier.
Pour d'autres, c'est un bol d'air bienvenu pour couper un peu avec le boulot. Tom et sa compagne sont techniciens de laboratoire et pour eux, les 2 derniers mois ont été très chargés.
On en profite de venir se balader ici pour pouvoir un peu changer les idées et profiter du grand air autour de Clermont. Du coup, on va aller se balader pendant 4-5 heures. Là, on a une petite balade de 15 km à faire avec le Suchet, le Pariou.
La Fédération française de randonnée rappelle que les groupes ne doivent pas dépasser 10 personnes et il faut laisser au minimum 2 mètres de distance entre les marcheurs.
Léo Corcos dans le Puy-de-Dôme. Les conséquences du Covid-19 au sommaire du 18-20 de Claire Servagent ce soir sur France Inter. Jean Nouvel sera son invité entre 18h15 et 19h. Avec lui, on évoquera la ville de demain, ce qui pourrait changer après cette période de confinement. Et puis au téléphone sonne à 19h20 un tout autre thème. Hommes-femmes, vivons-nous cette crise sanitaire de la même façon? Appelez-nous dès 17h au 01 45 24 7000. La dernière page de ce journal à l'étranger, en Israël. Après 500 jours de crise et 3 élections sans vainqueur, le gouvernement d'union de Benjamin Netanyahou et Benny Gantz prête serment aujourd'hui à Jérusalem au Parlement, la Knesset, selon un long cérémonial. Élection du nouveau président de la Knesset, vote de confiance sur le gouvernement et puis la prestation de serment. Frédéric Mettezo est notre correspondant permanent à Jérusalem. Il est en direct avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous.
Frédéric, ce gouvernement d'union aura un dossier urgent à gérer, les conséquences économiques du Covid-19.
Oui, Israël a réussi son confinement. Le coronavirus a fait 271 morts sur 9 millions d'habitants, mais le déconfinement est à haut risque. Le chômage a été multiplié par 7, il dépasse les 25%. Un demi-million d'indépendants n'ont pas touché le chômage partiel de l'État. Le FMI prévoit une récession de 6,3%. La pauvreté pourrait augmenter et la moitié des entreprises pourraient faire faillite. Il faut relancer la machine économique et réformer un marché du travail trop précaire, trop inégalitaire où les salaires sont bas et la formation professionnelle insuffisante. Et puis, il faut aussi éviter un rebond de l'épidémie. Israël est en ce moment écrasé par une chaleur caniculaire et les gens s'entassent sur les plages ou dans les forêts. Et puis, en début de semaine, des centaines d'ultra-orthodoxes se sont agglutinés pour une fête juive au mépris des règles de distanciation sociale, Pierre.
Et puis, Frédéric Mettezo, autre dossier sur lequel ce gouvernement d'union est très attendu, le conflit sans solution avec les Palestiniens et une annexion éventuelle de la vallée du Jourdain.
Il est temps de faire ce progrès historique, dit Benjamin Netanyahou il y a quelques minutes dans un discours au Parlement. Il pourrait lancer le processus à partir du 1er juillet. Ce serait alors un saut dans l'inconnu avec des risques de troubles en Cisjordanie et des tensions avec la Jordanie voisine. Hier, le roi de Jordanie Abdallah a mis Israël en garde d'un conflit en cas d'annexion.
Frédéric Mettezo en direct à Jérusalem et cette information en provenant d'Israël. L'ambassadeur de Chine en Israël a été retrouvé mort ce matin dans sa résidence en banlieue de Tel Aviv à Herzliya. La police a ouvert une enquête. C'est la fin de ce journal.